jours jusqu'à ce que Jésus revienne. Il a été composé par un pasteur anglais qui s'appelait John Newton. Et vous pouvez relever dans ce magnifique clip que j'aime beaucoup plusieurs symboles, notamment je vais relever deux dont je veux vous parler. C'est l'eau d'abord, symbole de baptême. Vous avez vu les magnifiques robes blanches d'ailleurs, comme on s'habille pour le baptême d'habitude. Et puis l'eau de mer, parce que John Newton était un athée notoire et un trafiquant d'esclaves. Et il a subi un naufrage épouvantable à la mer. Il a failli y laisser sa vie. Et suite à ça, il a donné sa vie au Christ. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans l'église évangélique de Meyrin. C'est sur ces paroles légèrement modifiées du psaume 122 que j'aimerais vous accueillir ce matin tous. Merci d'avoir bravé le brouillard, la neige, l'humidité et le froid pour venir ici, dans la maison de l'Éternel. Nous allons le célébrer, nous allons le louer tous ensemble. Et je vous souhaite, au nom de l'Église évangélique de Meyrin, mais surtout au nom du Christ, la bienvenue à tous, petits et les grands, les blancs et les noirs, les jeunes et les moins jeunes. Que vous soyez léger, de cœur léger, ou que vous soyez en cœur chargé, soyez tous bienvenus. Et nous allons avoir un culte qui est très riche, non seulement qu'il est riche, mais en plus il sera prolongé par un repas communautaire. Alors, dans cette communion, celle-ci, en compagnie du Seigneur Jésus-Christ, nous allons le recueillir d'abord pour le remettre entre ses mains. Seigneur, quel privilège de pouvoir nous réunir ainsi ce matin, nombreux, non seulement dans cette maison, mais dans toutes les églises du monde en ce moment, ou avec un décalage d'horaire, pour te célébrer, pour te rendre gloire, pour te dire combien tu es grand, Seigneur, et combien tu es présent au milieu de nous et dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te remettre ce culte entre tes mains, que ton Esprit Saint nous conduise, qu'il nous ouvre nos oreilles, qu'il nous ouvre surtout nos cœurs. Et bénis chacun de ceux qui vont participer ou qui sont là pour ce culte, et chacun de ceux qui l'ont préparé. Merci Seigneur encore pour ce privilège de te servir. Que ton Esprit nous accompagne, au nom puissant de Jésus, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Et nous allons tout de suite louer le Seigneur à l'aide de nos musiciens. Merci.
Voilà, et tout comme ces jeunes femmes qui se sont habillées de blanc pour glorifier leur Seigneur, comme dans le clip, hein, je vous invite aussi à vous préparer pour ce culte et pour venir le rencontrer, revenir rencontrer le Seigneur. Et je crois qu'il faut qu'on se prépare avant d'arriver à un culte. Et je vous invite vraiment à revêtir cet habit de louange, cet habit, ce manteau de joie, que nous puissions être prêts pour écouter et entendre la parole de Dieu. Alors on va chanter deux chants qui vont dans ce sens.
Thank you.
Je lis dans les Proverbes, le Proverbe 3. « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Révère l'Éternel, honore l'Éternel, célèbre, glorifie, adore l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ces dernières semaines, les lectures qui étaient proposées dans le guide de la Ligue pour la lecture de la Bible venaient du livre de Josué. Et puis, c'est l'histoire du peuple d'Israël, hein, au moment de recevoir la terre promise par Dieu, avec la traversée du Jourdain, avec la victoire sur Jéricho, avec la victoire sur de multiples villes. Et une chose qui ressort dans ces textes, c'est le peuple d'Israël qui écoute ou qui n'écoute pas le Seigneur avant d'agir. Chaque fois que le peuple d'Israël écoute l'Éternel, lui fait confiance, va comme il lui dit de faire, eh bien, le plan fonctionne et c'est une victoire à Dieu d'abord. Et sitôt que le peuple veut se battre avec ses propres moyens, ne pas écouter son Dieu, eh bien, c'est l'échec. Et aujourd'hui encore, Dieu, il a un plan pour nous, chacun personnel, il a un plan pour notre communauté, il a un plan pour les chrétiens du monde. Laissons-le pour cela nous parler, à nous de l'écouter, apprenons-nous à l'écouter. Approchons-nous de lui et adorons-le au travers des deux chants qui viennent.
tu es adoré. Viens tel que tu es devant ton Dieu. Viens.
Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci parce que chaque jour tu veux nous rencontrer, nous montrer ton chemin que tu as tracé pour nous, que tu trouves le meilleur pour nous. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous venons vers toi avec nos paroles, nos chants d'adoration. Je vous invite à prier, notre Seigneur.
Thank you.
Amen, Seigneur, à toi soit la gloire. Seigneur, accompagne les enfants qui vont être enseignés à l'école du dimanche maintenant et accompagne-nous dans la suite de ce culte, Seigneur. Amen.
J'aimerais juste prier pour les enfants et pour les animateurs de l'école de dimanche. Seigneur, nous te prions pour tous ces enfants qui sont déjà dans tes mains. Et nous te prions, Seigneur, que tu les gardes et que tu les protèges, que tu les protèges de tout le mal du monde et du malin. Seigneur, qu'ils puissent apprendre encore ce matin quelque chose de ta gloire, de ta personne. Et nous te prions pour tous les animateurs de l'école de dimanche, Seigneur, qu'ils puissent être remplis de ton Saint-Esprit pour conduire ces enfants à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous allons procéder à la lecture biblique qui vont servir de support à la prédication de notre pasteur Philippe Anchois. Je vais lire dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Luc 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question : Qui suis-je ? Au dire des hommes, ils répondirent : Jean-Baptiste. Les autres, Élie, les autres, quand des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis ? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et à partir du verset 28, environ 8 jours après qu'il lui eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils vinrent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée est sortie une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils, élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu.
bonjour à chacun, chacune. Le calendrier de l'Avent, vous le connaissez, n'est-ce pas? Le calendrier de l'Avent. Vous savez, c'est ces quatre bougies que l'on allume dimanche après dimanche en décembre. Ces étapes qui nous amènent jusqu'à Noël, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait pour Pâques, alors? Certains font le carême. En tous les cas, je trouve que Pâques mériterait aussi d'être mise en valeur. Cette tension qui monte au mois de décembre, cette densité, on la retrouve aussi dans les récits des évangiles au sujet de Pâques. La tension monte. Et la tension monte pendant que Jésus monte à Jérusalem. Et quand on arrive à mi-parcours des évangiles, il y a là comme un tournant. Jésus commence son dernier voyage vers Jérusalem. Il monte à Jérusalem. Et à partir de là, à partir de Luc 9, l'opposition envers Jésus se durcit, se formalise. Jésus entre dans Jérusalem comme un roi de paix. Puis les évangiles vont raconter par le détail la dernière semaine, jusqu'au terrible vendredi et jusqu'au glorieux dimanche. La tension monte. Un calendrier d'étapes se dévoile. Et pour ce matin, j'aimerais simplement nous placer au tout début de ce calendrier d'étapes. La charnière des évangiles, c'est ce moment où Jésus demande aux 12 de se positionner plus clairement. Verset 20 du texte que nous avons lu. « Qui dites-vous que je suis ?» Il demande cela aux disciples. « Qui dites-vous que je suis ?»« Tu es le Messie. Tu es le Messie. » Et à partir de là, à partir de ce moment-là, Jésus commence d'enseigner qu'il va monter à Jérusalem, où il va beaucoup souffrir. Il sera rejeté par les responsables du peuple, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi. Il sera mis à mort, dit-il, et il ressuscitera le troisième jour. Verset 22. Mais juste avant de quitter la Galilée, juste avant d'entamer ce voyage décisif vers Jérusalem, Jésus et trois disciples vont faire une expérience inédite. C'est le récit de la transfiguration que nous avons lu. Est-ce que l'on pourrait essayer de se mettre un instant dans la peau de ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui accompagnent le Seigneur? Trois disciples. Le cercle le plus intime, le petit groupe qui accompagne Jésus dans des moments exceptionnels, comme par exemple le jardin de Gethsémané un peu plus tard. Le cercle le plus intime. On peut les imaginer, ces trois-là, fiers, fiers de cette relation privilégiée, de cette proximité avec le Messie. Tu es le Messie. On peut penser qu'ils s'attendent à vivre quelque chose de spécial. Et Jésus les invite à venir à part avec lui, puis il monte sur une montagne, verset 28. Il monte sur la montagne. Il faut du temps pour monter la montagne. On parle peut-être on cogite sûrement. Où est-ce qu'il nous amène? Qu'est-ce qui va se passer? On se rappelle que Moïse aussi est monté sur une montagne où il a dialogué avec Dieu, où il a reçu la loi de Dieu. Visiblement, on est en fin d'après-midi parce que le groupe va rester pour la nuit sur la montagne, va redescendre le lendemain matin, nous dit Luc au verset 37. Est-ce que les disciples savaient que Jésus voulait se mettre à l'écart pour prier? Est-ce que ces trois disciples estimaient pouvoir être pour Jésus comme une sorte de valeur ajoutée? En fait, ils se sont assoupis, verset 32. Comme ils s'endormiront d'ailleurs aussi à Gethsémané. Ils sont avec le Messie, avec le maître qu'ils aiment, mais même dans l'amitié, même dans l'admiration, c'est pas toujours l'évidence même de ne pas passer à côté de moments essentiels. Alors il s'est passé quoi sur cette montagne au juste? Eh bien, verset 29, le visage de Jésus change d'aspect, comme celui de Moïse, quand il entrait dans la présence de Dieu. Ses vêtements deviennent éblouissants de blancheur, comme ceux des anges dans de nombreux textes bibliques. On peut dire que Jésus, sur la montagne, à ce moment-là, est comme auréolé de gloire. Et voilà, verset 30, que deux hommes apparaissent. Moïse et Élie. Morts depuis longtemps. Deux géants de l'Ancien Testament. Moïse qui a reçu la loi de Dieu, Moïse qui a donné la loi de Dieu au peuple, Malachie 3, verset 22, et Élie, un très grand prophète dont on le disait qu'il devait revenir, Malachie 3, verset 23, les derniers mots de l'Ancien Testament, on attend le nouvel Élie. Et voilà que ces deux-là, morts depuis longtemps, se retrouvent bien vivants, resplendissants de gloire à côté de Jésus. Ils sont vivants auprès de Dieu, ils appartiennent au ciel, et les voilà de manière extraordinaire, visibles et audibles un instant, matérialisés dans ce monde. Un nuage lumineux les enveloppe, dit le texte, encore un signe de la présence glorieuse de Dieu. Et voilà donc nos trois artisans pêcheurs du lac de Galilée qui se retrouvent dans la présence quasi tangible, quasi touchable de Dieu. Et cette présence est glorieuse. Et ils sont terrifiés, nous dit le texte, verset 34. Dans la présence de Dieu, c'est panique à bord. Et le texte précise même que Pierre, verset 33, Pierre, une fois encore, dit n'importe quoi. Et c'est sans doute Pierre lui-même qui l'a raconté après coup à Luc. J'ai raconté n'importe quoi. Et alors, depuis la nuée, une voix se fait entendre, comme au mont Sinaï. C'est la voix même de Dieu, verset 35. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Puis, plus rien. Trois artisans pêcheurs sur la montagne. Jésus, des rochers, quelques brins d'herbe, le soleil qui se couche, le souffle court pour tout le monde. L'événement n'a pas duré. Et c'est sans doute parce que cet événement est justement fugace qu'il est préférable de ne pas y voir l'accomplissement de Luc 9, verset 27, qui précède tout juste cet épisode. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Et l'accomplissement de ce texte, c'est probablement pas la transfiguration, mais bien plutôt la résurrection qui viendra et dont plusieurs seront les témoins. En tous les cas, cet événement n'a pas duré. Mais il les a marqués. Et Pierre en parlera quelques années plus tard dans sa deuxième lettre, au chapitre 1, les versets 16 à 18. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux, car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Or cette voix qui était venu du ciel, nous l'avons entendu nous-mêmes, puisque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Il l'a vécu, cet événement. À un moment donné, il a dit n'importe quoi, certes. Mais quand il faut en parler quelques années plus tard, il dit, nous savons de quoi nous rendons témoignage. Nous étions là, nous étions avec lui. Et maintenant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça? Il y a une première chose qui me saute aux yeux, c'est que les apparences sont trompeuses. Ce Jésus qui avait voulu la compagnie de trois amis ordinaires, ce Jésus, il est en train de discuter d'égal à égal avec Moïse et Élie. La loi et les prophètes convergent vers lui. La loi et les prophètes aboutissent à lui. Il est bien le Messie annoncé, celui vers qui pointent les Écritures. C'est lui, c'est Jésus. Il n'y a pas de doute à ce propos. Il est l'aboutissement du plan de Dieu. Cet homme qui a passé plusieurs années de sa vie à manier la scie et le rabot, cet homme-là rayonne d'une gloire céleste. Jésus est le Messie. Et la voix surtout, la voix. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Ça s'était déjà produit une fois, lors du baptême de Jésus. Luc 3, verset 22. Mais à mi-parcours de la vie de Jésus, le Père confirme encore devant quelques-uns que Jésus est réellement son Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Je vois deux subtilités dans ce que Luc rapporte ici. D'abord, écoutez-le. Ce qui fait penser à cette grande prophétie de Moïse, Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le ! Donc Jésus est bien le prophète comme Moïse, que tout le monde attendait. Puis, il y a cette notation, par Dieu, celui que j'ai choisi. Ce qui doit nous faire penser, me semble-t-il, au chant du serviteur que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe, en particulier Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie, je lui ai donné mon esprit, il établira la justice pour les nations. » Si Jésus est le serviteur que l'Éternel s'est choisi, c'est qu'il a une mission. Un serviteur sert un maître. Ce serviteur a une mission que le prophète Ésaïe décrit très largement. Il va apporter le salut, il va apporter la délivrance, il va apporter le pardon, il va apporter la justice, il sera la lumière des nations, il restaurera ce qui a été tordu. Mais avant ça, Il sera rejeté, trahi, humilié, maltraité, tué. Et je cite là une parole de Jésus prononcée à la même époque, Marc 10, verset 45. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Celui que Dieu a choisi donne sa vie en rançon pour beaucoup. C'est le cœur, le centre de sa mission. Il paye pour que nous recevions le salut. D'ailleurs, regardez de quoi Jésus parle dans notre texte avec Moïse et Élie. Quand Jésus s'entretient sur la montagne avec Moïse et Élie, verset 31, il parlait de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Quand il parle, lui, avec Moïse et Élie, il parle littéralement dans le grec de son exode qui va s'accomplir à Jérusalem. L'exode, c'est le départ, c'est sa mort. Si cet exode s'accomplit, c'est qu'il y a un plan derrière, c'est qu'il y a une mission qui lui a été confiée par le Père et qu'il va mener à bien. Et je vois dans cette idée un double enjeu, et je conclue avec ça. Le premier enjeu que je vois dans ce texte, c'est notre façon de comprendre la croix. La croix, ce n'était pas un accident de parcours, ce n'était pas un malheureux hasard, un accident tragique, un coup du destin. La croix, ce n'est pas seulement le signe de la méchanceté des hommes, de la lâcheté, de la violence humaine. La croix, ce n'est même pas seulement un signe de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Le comportement de Jésus sur la croix, devant l'injustice, devant la mort, ce n'est pas seulement un exemple à suivre. La croix, c'est le prix payé pour nos péchés. C'est la rançon qui nous libère. C'est le châtiment qui nous donne la paix. C'est fait. Nous sommes des hommes et des femmes sauvés. La croix, c'est comme les sacrifices de l'Ancien Testament, mais sur une toute autre échelle, unique, complète, définitive, accomplie, c'est fait. Le Fils de Dieu, le Messie, dépose sa vie pour que nous nous retrouvions la nôtre. Là, il nous sauve, il nous pardonne, il nous rachète. La repentance, comme disait Denise dimanche dernier, c'est le retour à la maison, là où on est bien. Et puis le deuxième enjeu, c'est notre façon de nous approprier les bienfaits de la mission de Jésus. Parce que la mission de Jésus, ce n'est pas seulement une question de piété ou de théologie ou d'intérêt intellectuel. La mission de Jésus, ça suppose une question d'appropriation. Quand je lis ce texte, je me demande, est-ce que la mission de Jésus, c'est pour moi? Est-ce que cette mission s'accomplit pour moi? Est-ce que c'est pour moi qu'il a donné sa vie en rançon? Vous savez, une rançon, ça ne libère personne qui n'a pas envie de libération. Le châtiment qui donne la paix ne donnera pas la paix à ceux qui n'en veulent pas. Le salut ne s'opérera pas à l'insu de notre plein gré. Après avoir compris la croix, il faut l'accepter, se l'approprier, la vivre concrètement, réaliser qu'elle est la libération au cœur de notre histoire. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Je comprends donc qui est Jésus. Je comprends qu'il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Je le reçois, lui, en personne, son salut. Et maintenant ? Eh bien maintenant, je l'écoute. Je l'écoute. Ce qui n'est pas seulement un acte physique, ce qui n'est pas seulement un dispositif mécanique, écoutez, c'est d'abord un acte spirituel. Je l'écoute en lisant sa parole. J'y trouve pour ma vie des ressources, du carburant, des encouragements. Je me remets en question. J'apprends. Je suis nourri, encouragé, stimulé, repris. Je l'écoute quand je prie, quand je m'ouvre à lui, et que quelque chose surgit dans mon inconscient et que je me dis « Ah ouais, là j'ai quelque chose à faire ». Je l'écoute en église. Un chant, une lecture, une prière, une prédication nous touche. Et au-delà des notes, au-delà du ton, au-delà du talent ou du manque de talent, on y discerne la voix du maître. Je l'écoute au volant, je l'écoute au travail, je l'écoute en cours, je l'écoute en faisant la vaisselle. Tiens, cette pensée nouvelle, peut-être qu'elle vient de lui, je dois la tester au regard de sa parole. J'aurais peut-être à agir. Par exemple, le baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà un des signes de l'écoute de Dieu, de remise en question, d'engagement de disciple. Écoutons-le. Écoutons-le. Toujours. Toute la vie. En toutes circonstances. Écoutons-le. Amen.
Pour faire l'écho à la prédication de Philippe, nous allons avoir un petit moment de prière communautaire. Laissons résonner ces paroles de Philippe et surtout de l'Évangile dans nos cœurs. Amen. 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 Oui, Seigneur, c'est vrai que tu nous invites dans ta parole à ne pas être des serviteurs oublieux. Alors nous te prions que tu veilles à ce que nous soyons des serviteurs fidèles, qui écoutions et qui obéissions. Oui Seigneur, nous voulons répondre à cet appel que nous avons entendu ce matin. Écoutez-le comme Jésus, ou plutôt son Père, nous invite à le faire. Amen. Nous allons avoir la Sainte Cène et c'est Xavier qui va être le président.
Donc là, je vous invite à Sainte Cène. C'est vrai qu'on m'a demandé d'animer et je suis reconnaissant, c'est un gros défi, dans le sens que ça m'a travaillé pendant toute la semaine, donc voilà. Je vais vous inviter à lire un texte qui, je réfléchissais, puis Philippe m'a donné trois textes, et il y en a un qui m'a bien encouragé toute la semaine, encouragé beaucoup de questions. Et suivi de ce texte, je vous inviterai aussi à écouter un morceau qui va être mis après. Un texte qui m'a travaillé depuis que je l'ai écouté et qui me suit quotidiennement. Et je crois que ça a été un petit peu inspiré aussi, j'ai l'impression, ce matin. Alors je vous invite à lire ce texte qui est dans 1 Corinthiens 11, 23 à 35. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. » Toutes les fois que vous en boirez, Faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché envers le corps du Christ, le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître la relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Mais nous sommes jugés et corrigés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Voilà. J'invite à écouter ce morceau. Voilà, c'est un chant qui me bouleverse tout le jour. Rien à ajouter. Mais en prenant la scène aussi, bah, ça me fait aussi bien réfléchir dans ce qui était dit dans le texte, dans comme je suis. Et là, j'improvise un peu parce que ça me bouleverse tout le temps. J'ai envie aussi, c'était vraiment un temps que j'avais envie de vous le partager pour qu'on puisse aussi se remettre aussi en question de savoir ce que Dieu a fait pour nous. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, là, ce morceau, mais la première fois que j'ai entendu, ben, j'étais dans l'histoire. Et j'ai vu Jésus qui était en train de se faire maltraiter, en train de se faire... Ben, quand on voit qu'il se fait planter des clous dans les mains. En tant que paysagiste, quand je taille les rosiers, je ne sais pas, peut-être il y en a qui le font, ben, ça fait mal. Mais quand on imagine qu'il a eu ça, mais sur sa tête, ben voilà, ça me bouleverse. Je me dis, il a fait ça pour moi, pour vous. Pardon. Alors, vous allez prendre ce temps de scène. J'invite juste ceux qui vont distribuer la scène à venir et à le partager. Et pendant ce temps, on va rester en silence. Prenez ce temps tête à tête avec votre Père. Remettez-vous en question ou repensez à ce que Dieu a fait et à travers ce pain, son corps. Ce qui est en rose, c'est du jus de raisin, puis on est filé par moi, on sera avec la coupe.
Prions. Seigneur, nous avons entendu des magnifiques paroles de ce cantique. Nous avons entendu aussi Xavier, son témoignage. Alors nous te remercions, Seigneur, pour tout cela. Nous te remercions pour ce repas que nous avons pu prendre en communion l'un avec l'autre et surtout en communion avec toi, Seigneur. Encore une fois, nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous et de ce que tu as dit aux trois apôtres. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Nous voulons l'écouter, Seigneur. Ton fils bien-aimé que tu as sacrifié afin que nous vivions. Merci encore. Gloire à toi. Amen. Et pour introduire l'offrande, nous allons chanter le cantique numéro 864 avec des paroles très suggestives. Je te donne tout. Thank you. C'est vrai, Seigneur, avec toutes les forces que nous avons qui sont faibles, mais que toi tu donnes, nous pouvons tout te donner. Nous voulons t'offrir ce petit quelque chose qui t'appartient de toute façon. Nous voulons te le donner à ce que nous puissions le répartir entre les différentes personnes qui ont besoin de cet argent, que ce soit nos pasteurs ou que ce soit ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous te prions de bénir cet argent et qu'il soit distribué avec ta sagesse. Nous te le remettons au nom de Jésus. Amen. Et c'est Xavier qui commence son témoignage.
Un témoignage qui... Oh, merci pour les photos. En fait, c'est un témoignage, mais sans être un témoignage aussi. Simplement que dans un mois, tout juste, je vais commencer une formation. Je vais faire en fait une école de louanges à Jeunesse en Mission à Burtini. Ça va être un sacré défi. Donc, c'est une durée de 5 mois, donc avec de la théorie et de la pratique. But de l'école, c'est se former dans le leadership, donc apprendre aussi à leader une équipe, à pouvoir composer, donc à composer des nouveaux chants, nouvelles musiques, approfondir la relation avec Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que c'est vraiment la louange au sein de dans la Bible, comment c'est écrit, etc. C'était une sacrée réflexion pendant une année avec Rebecca. C'est clair, Moussa et tous, on a une petite famille, on a un petit enfant. Donc c'est un sacré défi, c'est de savoir financièrement comment on va s'en sortir avec un salaire. Mais voilà, en tout cas ça y est, c'est fait, c'est inscrit depuis un bon moment. Et on est vraiment en paix par rapport à ça. Puis voilà. Puis comment, c'est aussi un témoignage, c'est aussi comment ces portes elles sont ouvertes pour cette école. Ce qui est assez hallucinant, c'est que on a pris du temps, mais niveau aussi de mon travail, donc comme vous le savez, je suis paysagiste, ça je le dis juste en quelques mots, c'est qu'en fait j'ai donné vraiment ma lettre de démission à mon employeur. C'est un employeur que j'ai travaillé pendant 10 ans avec, donc j'ai fondé un peu l'entreprise avec, en tant qu'ouvrier. Et quand je lui en ai touché deux mots, c'est clair que pour lui c'était un coup, pour moi aussi d'ailleurs. Mais, en plus, juste en parenthèse, c'est une personne qui n'est pas chrétienne. Et en fait, quand on a discuté ensemble, il m'a dit « mais vas-y, fonce, fais tes rêves, profite de... Ouais. » T'as un rêve, vas-y, fonce. Et ça m'a bouleversé. C'est quelque chose quand même qui touche en tant qu'une personne non chrétienne, quoi, en plus. Et la petite subtilité, c'est qu'il m'a dit que la porte, elle sera toujours grande ouverte. Donc pour moi, c'est aussi une porte ouverte pour cette école en disant que, voilà, je ne sais pas ce qui va arriver après mon école. Ce sera, voilà, on doit vraiment s'attendre à ce que Dieu ouvre des autres choses après. Mais j'ai une porte en guillemets de secours où que je sais que j'ai une place à quelque part. En quelques mots aussi, c'est vrai que voilà, vous me voyez des fois devant une scène, mais c'est vrai que pour moi la louange c'est quelque chose de primordial, quelque chose qui m'habite depuis mon enfance. Depuis l'âge de 6 ans, je fais de la trompette. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai pris mon instrument, c'est de souffler dedans. Et ça commence à sortir des sons, puis en fait j'ai commencé à improviser. Et pour moi c'était tout de suite, voilà. C'est Dieu qui m'a donné ce don, puis je dois le mettre au service, ça. Ça n'a pas été facile tout le temps, jusqu'à quelques années pendant mon école de musique que je faisais dans les fanfares, où j'avais un prof qui me coulait plus qu'autre chose. Et en fait, c'est ce qui m'a donné peut-être une force, grâce à Dieu, pour pouvoir continuer. Donc voilà, en fait, en gros, c'est que... Ce que je veux vous dire, c'est que par rapport à cet instrument, par rapport peut-être aussi au piano, j'ai été autodidacte, j'ai commencé à jouer comme ça. Mais ce que j'ai reçu, maintenant je veux le mettre en pratique et je veux le servir pour ça. Donc c'est pour ça que je prends cette école à cœur. Je veux me former pour pouvoir le servir plus tard. Et c'est vrai que Rebecca, j'en reviens quand même encore à toi, c'est qu'elle me suit à fond depuis, je crois que je m'aime, je sais pas si je te saoule un peu avec, mais, avec cette école, mais c'est vrai que c'est un, j'ai à cœur ça, c'est au fond de moi, c'est, ça sort de mes tripes, quoi. Je veux le servir. Avec quoi, je sais pas, mais voilà, il m'a montré que avec cette école, ben, je vais pouvoir faire plein de choses. Et voilà, en gros. Et je reste au repas canadien. Oui. Et voilà, si vous avez plus envie de questions, ben, je suis disponible. Voilà. Et puis mes sujets de prière, ben, je sais pas, j'en ai plein, mais en même temps, c'est difficile d'écrire maintenant, mais on est tellement en paix, mais je voulais simplement partager ça avec vous, avec le groupe Mission, avec le conseil, parce que vous êtes une famille, et puis on peut tous dire, et puis j'avais envie de, voilà, de vous partager, et, tout simplement. Voilà. Donc en fait, ouais, je commence le 2 avril. Donc c'est bientôt.
Voilà, je remercie Xavier pour son témoignage, et surtout j'aimerais inviter maintenant la communauté et quelques personnes qui vont prier pour Xavier. Ça sera la prière de consécration ou d'envoi ou comme vous voulez.
Je voulais aussi remercier Xavier, car merci. Je voulais aussi remercier Xavier et Rebecca. J'étais sûr que j'allais me tromper, parce qu'en fait, ils ont cheminé eux, et ils ont aussi demandé à l'Église de les accompagner. Ils ont rencontré le Conseil. On les a rencontrés aussi avec le groupe Mission, et vraiment nous les soutenons tous les deux dans cette aventure qu'ils commencent pour apprendre à servir toujours mieux celui que nous adorons. Le groupe Mission est toujours à disposition de ceux qui le désirent.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier tous ensemble, pour nos amis Xavier et Rebecca et leur petit Arnaud. Nous voulons les recommander à ta grâce, notre Dieu, et leur faire cette joie de pouvoir poursuivre le service pour l'honneur de ton nom. Te prie d'aplanir le chemin devant eux, de rendre les choses possibles, d'ouvrir les portes. Merci de les savoir entre de bonnes mains, les tiennes. Et nous les recommandons à toi. Dans le nom de Jésus. Amen.
Dieu Père, j'aimerais te remettre Xavier et Rebecca. Tu vois que cette formation, c'est aussi une formation pour leur famille. Tu vois, ce séjour d'absence va amener aussi son lot de difficultés, que tu les soutiennes dans leur famille, que cette formation puisse les renforcer aussi pour eux. Et ce que Xavier recevra aussi dans cette formation, qu'il puisse le redonner pour toi, que ce soit pour l'Église en général, ton Église, un élément en plus pour ta gloire. Amen.
Ouais, Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier pour ce don musical que tu as donné à Xavier et ton Saint-Esprit qui l'habite. Et je te remercie vraiment pour ce rêve maintenant qu'il a d'aller de l'avant dans la louange et d'aller dans ta direction. Et je te prie vraiment qu'à travers cette école, tu puisses lui donner tout ce qu'il a besoin, tous les outils nécessaires pour pouvoir mettre ce don à ton service, Seigneur, et qu'il puisse vraiment se recentrer sur toi et comprendre ce que tu veux, enfin où est-ce que tu veux l'amener avec cette formation et avec tous les dons que tu lui as donnés. Et je te remercie pour toute leur famille, Seigneur, pour Rebecca et Arnaud, que tu puisses les unir tous les trois et leur apporter tout ce qu'ils ont besoin et tout ton soutien, Seigneur Jésus. Amen.
Seigneur Jésus, nous te remercions pour Rebecca et Xavier, pour les dons qu'ils ont mis à notre disposition, à ta disposition dans l'Église. Merci pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Merci Seigneur pour ce qu'ils sont. Et Seigneur, merci pour le courage que tu leur as donné. Merci pour Xavier qui a eu le courage d'abandonner son emploi sûr. Et Seigneur, que ce courage puisse l'accompagner aussi pour aller de l'avant, pour faire cette école, pour mettre encore davantage ses dons, à ton service. Et nous les bénissons tous les deux au nom de Jésus-Christ. Amen.
Juste, l'école, ce sera à Burtigny, donc c'est pas trop loin. Je vais pouvoir rentrer tous les soirs. Chouette. Et donc, vous me verrez peut-être de temps en temps le dimanche. Voilà.
En 1975, un de nos paroissiens que vous connaissez, Jacques Erdener, je ne le vois pas, il est parti. Il avait peur. Il a eu une idée de génie. Il était délégué médical pour des produits pharmaceutiques de la maison Merck. Et il s'est aperçu en visitant les médecins dans leur cabinet qu'ils étaient un peu réticents parfois à accepter des échantillons qu'ils leur offraient. Parce qu'ils en avaient déjà plein, les tiroirs débordaient d'échantillons de toutes sortes, qui allaient finir à la poubelle, bien entendu. Alors il a eu une idée de collecter ces médicaments et de les mettre à disposition de ceux qui n'en ont pas, ou très peu, en Afrique notamment, ou ailleurs aussi, par exemple dans les pays de l'Est, anciennement. Et puis, l'idée a mûri et s'est développée un peu, étoffée, jusqu'au point où en 82, il a contacté votre serviteur, une pharmacienne, Muriel M. Brunen, et également Werner Albisser, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui non plus, les absentors. Il a contacté, on était quatre, un groupe qui s'est formé à l'époque avec quelques aficionados autour qui nous ont soutenus financièrement notamment et par la prière. Et nous avons formé le groupe ou l'association qui s'appelle SEMM, SEM, Secours Médical Missionnaire. Donc notre chapeau était double. C'est collecter d'abord les médicaments auprès des médecins, mais aussi auprès des particuliers, puisqu'il y a des gens qui ont des médicaments dont ils ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas fini, par exemple. Et puis, nous les avons envoyés justement aux gens, aux missionnaires de priorité, en priorité, mais aussi aux gens qui nous demandaient des médicaments, qui n'avaient pas d'autres moyens de les obtenir. Et ainsi s'est étoffée notre association. Elle a grandi, mais la source ou les sources sont asséchées. c'est-à-dire les médecins avaient de moins en moins d'échantillons, étant donné les règlements des maisons pharmaceutiques. Et puis, le miracle, on ne peut pas dire autrement, a eu lieu. Il y avait des maisons de distribution qui avaient des médicaments qui étaient un peu avec des petits défauts d'emballage notamment, mais qui étaient parfaitement dans les délais d'expiration, donc tout à fait valables. Et avec ces médicaments-là, maintenant, on peut fournir beaucoup plus qu'avant des gens qui en ont besoin. Donc, encore une fois, prioritairement des missionnaires ou qui partent en mission et à d'autres organisations. Nous avons pas mal de demandes, d'ailleurs. Nous sommes tous des volontaires, bien entendu. Nous avons peu de frais, si ce n'est que nous devons payer les locaux. Les loyers étant chers à Genève, évidemment, c'est vraiment la seule chose qui est coûteuse. Et puis tous ces aficionados qui nous ont accompagnés au fil des ans sont petit à petit partis vers le Seigneur ou autrement, ce qui fait qu'on s'est retrouvé il y a quelques années avec très peu de ressources financières et nous en sommes là en ce moment. Vous nous avez dépanné l'année dernière, l'Église nous a aidés par une donation, par un don, mais nous restons quand même encore dans une situation qui est délicate. Alors je fais appel à tous ceux qui seraient intéressés par notre mission, parce que c'en est une, que ce soit par la prière ou pour être membre, et nous soutenir également financièrement. J'aimerais quand même faire quelques présentations, parce qu'il y a donc Jacques Rosset qui fait partie également de notre association depuis quelques années. Il y a Hans Nold qui nous assure, qui n'est pas là non plus apparemment, qui assure surtout le transport des médicaments, parce que nous en recevons à peu près 1 mètre cube par mois, ce qui représente presque 1 million de francs de valeur de marchandises par an, ce qui est vraiment absolument étonnant. Et puis nous ne payons pas d'impôts, bien sûr, là-dessus, ni la TVA. Et puis il y a Thierry, que j'ai vu tout à l'heure, voilà, il y a Thierry Battisti, qui fait également partie de notre association. Et Werner Albisser a été remplacé par Eliane Pfundt, qui n'est pas là non plus, je crois. Bon, bref. Donc, vous voyez que c'est une association qui est essentiellement composée des membres de notre Église. Donc, elle vous est très proche, et cette proximité, j'aimerais la souligner, fait que cette mission fait partie vraiment de notre Église également. Jacques et son fils, en particulier, je crois, est un féru de l'Internet. Alors, si tu veux dire peut-être quelques mots sur... la publicité et l'Internet.
Peut-être juste vous dire en 2 mots comment j'ai connu SEM. Une amie de mon église d'enfance m'a parlé un jour et m'a dit qu'elle envoyait des médicaments en Afrique. Et notre petit groupe de chrétiens a essayé une année d'aider cette sœur pour faire des paquets et envoyer ces paquets en Afrique. Ma sœur aînée, qui envoyait des paquets pour une famille en Roumanie, m'a dit qu'elle aimerait envoyer aussi des médicaments à cette famille qui était très pauvre. Quand ils sont pauvres, ils ne peuvent pas avoir des médicaments, ils ne peuvent même pas aller chez le médecin. J'ai contacté alors, puisque je connaissais donc SEM, par l'intermédiaire de cette sœur, j'ai contacté Jacques Erdener et plusieurs fois par année, selon les besoins de cette famille chrétienne, on a envoyé des médicaments. Dans cette famille, il y avait une fille assez âgée, trisomique, et il y avait des problèmes, et on a pu un petit peu pallier par les médicaments envers cette famille. Effectivement, je m'occupe avec Jacques Erdener des bulletins d'information qui sont réalisés à peu près 4 fois par année. Et le site internet donc a été abandonné pendant quelques mois, peut-être même quelques années. Et c'est vrai que j'ai repris ça. Et maintenant, il faut tout refaire. Parce qu'on a dû changer de serveur. On a dû changer de serveur, d'hébergement. Et puis, je me suis attaqué à ça, sachant un tout petit peu l'informatique. Et j'ai cru que j'arriverais du bout du doigt à faire un site internet. J'ai commencé, mais j'ai des difficultés et je lance aussi un appel ici s'il y a un jeune qui est tombé dans la marmite d'internet quand il était petit, ça serait bien qu'il puisse me donner un petit coup de main parce que je rame assez fort donc dans ce site internet. Ça serait vraiment une bénédiction qu'une personne qui puisse me donner un petit coup de main. SEM a besoin de notre aide, effectivement, comme on a entendu. Peut-être tu as le slide d'avant, ou bien pas. Ah, d'accord, ok. Donc SEM a besoin de notre aide parce qu'il travaille donc main dans la main avec Dieu et avec aussi, on a vu, donc cette assemblée ici. Alexandre, quand il est parti en Afrique dernièrement, il a bénéficié justement de ces médicaments, il a pu prendre des médicaments pour les apporter, pour les mettre à disposition en Afrique, là où il était. SEM doit perdurer. Alors, pour qu'il perdure, on compte sur chacun de vous pour pouvoir aider cette association. Merci.
Avis aux amateurs. Nous allons maintenant avoir un moment des annonces. Je ne sais pas, Michel, tu es prêt? La première annonce, je la fais déjà moi-même. Pour juste vous rappeler, il y a donc un repas communautaire suite au culte. Ceux qui ont oublié, vous pouvez bien sûr venir, même si vous n'avez rien apporté. Il y aura bien assez.
Alors, je suis prêt pour faire les annonces grâce à Rebecca Perrin qui fait les slides. Merci, Rebecca. Voilà, il y a besoin de monde pour la projection, parce que s'il n'y a pas de projection, ben, il n'y a rien sur l'écran, et c'est un vrai problème, parce qu'on est habitué à l'écran maintenant. Et vous pouvez le faire, parce que ce sera bien expliqué. Vous pouvez vous approcher de Thierry Terra, qui aujourd'hui est à la projection de Christophe ou de Rebecca. Voilà, cette semaine, mardi, il y a la deuxième série, la deuxième volet de nos ateliers bibliques, le culte rencontre entre la communauté et Dieu. Et plus généralement, cette deuxième série est intitulée « Ingrédients et créativité ». Voilà, c'est David qui nous conduira dans cette réflexion. Et ça se déroule sur 4 mardis. Vous avez là le flyer avec les mardis. La rencontre générale de la FRE à Cortaillot, notre fédération d'église, et dimanche 11 mars, ici, Michel Jean-Renaud, qui est le pasteur de la Pélisserie, et notre pasteur sera à la Pélisserie pour apporter le message. Jeudi 8 mars, la soirée congolaise en faveur d'Assafi. On vous a déjà redonné quelques informations plus complètes la semaine passée. Je passe. Vendredi 9 mars, une conférence de Claude Bécher au CEPOM à 20h, de la chrétienté au christianisme. Claude, tu veux dire quelque chose? Non. Non, il ne veut rien dire, donc vous irez l'écouter. Voilà, et vendredi 16 mars, le spectacle L'Autre Dieu, c'est un spectacle extraordinaire pour lequel vous pouvez vraiment inviter des personnes, je pense. Hein.
Merci Michel de me donner une minute. Je l'apprends parce que ce spectacle, moi, m'a bouleversée. Alors, c'est une voix cassée aujourd'hui. C'est pas une voix émue, c'est une voix cassée. Hein, donc, mais ce spectacle m'a bouleversée. Ce texte m'a bouleversée. Et je trouve que si la Bible est la parole de la vie, hein, j'ai envie de dire, ce petit livre, c'est une parole pour la vie, pour avancer. Hein, ça ne va pas détrôner la Bible, mais pour avancer, c'est vraiment magnifique. Et puis, cet homme qui chavire, c'est Giacometti, et ça montre toute la fragilité. Je voulais juste expliquer, ça montre toute la fragilité de l'homme. Est-ce qu'il va tenir debout, est-ce qu'il ne va pas tenir debout, on ne sait pas. Et dans cet autre Dieu, on sait qu'il va tenir debout grâce à Dieu. Et puis le titre, l'autre Dieu, quelqu'un m'a dit, l'autre Dieu, mais il n'y en a qu'un. C'est qui l'autre ? Pas très chrétien, oui. Parce que ce titre, c'est peut-être l'autre Dieu que celui que je m'imagine. C'est peut-être l'autre Dieu qui m'arrange finalement dans ma religion. Enfin, l'autre Dieu que celui qui m'arrange dans ma religion. C'est peut-être l'autre Dieu que celui que j'enferme dans ma vision humaine. Et puis Marion Muller-Collard, elle a réfléchi sur la souffrance de Job, elle a réfléchi sur sa propre situation aussi. Elle a posé les interrogations, elle a posé ses doutes, les douleurs, et puis elle a fait le choix de la grâce et le choix de la vie. Et cette espèce de drôle d'homme qui chavire, c'est le choix de la vie. Et je vous encourage à venir écouter Nouria Chollet et Aude Moret. Elles sont magistrales dans la justesse et dans la sobriété de leur jeu. C'est juste magnifique. Voilà. Juste, c'est ouvert à des personnes, je dirais, à partir du cycle d'orientation. C'est un texte peut-être un peu riche et intense. Nouria me disait 12 ans. Moi, je trouve un peu, 15 ans. Je pense que c'est accessible. Et puis, il y aura peut-être, j'espère, une petite restauration par le groupe de jeunes. Voilà.
Voilà, la restauration est affichée. Samedi 24 mars, le Forum des Hommes à Yverdon. Vous pouvez vous approcher d'Alexandre Pollet pour avoir plus d'informations. Et puis, dernier appel, c'est le dernier jour pour rendre votre sondage, les propositions que vous avez à faire pour le renouvellement du Conseil. Vous avez oublié votre papier pour rendre votre sondage. C'est ça le problème, peut-être. Mais ils y ont pensé, il y a des formulaires vierges à côté de la boîte. Donc, pas de problème, vous pouvez le faire. Et puis, il y aura des baptêmes qui sont prévus vraisemblablement au mois de juin. Vous pouvez contacter soit Philippe, soit Claude, si cette démarche vous est intéressée. Parce que c'est une démarche dans laquelle il faut entrer. Et il y a la possibilité d'entrer au travers d'un cours.
Je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. Levons-nous. Bien que notre Dieu et Père, le Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, nous accompagne, vous accompagne pendant cette semaine, qu'il soit votre force, votre joie, votre consolation. Amen.